Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Dernière fin de semaine de novembre 2025. Ici Alex Bayer-Join, bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFA 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. J'espère que la radio marche pour vrai dans le bureau parce que j'ai fait une joke de l'écran marche pas, mais j'ai vraiment un écran qui marche pas. Fait que si quelqu'un m'entend de l'autre côté qui voudrait venir voir ça, ça serait apprécié. Sinon, au menu de l'émission aujourd'hui, ça va être très cinéma. Plusieurs films qui prennent l'affiche cette fin de semaine, entre autres. Et on va quand même faire le tour de ce qui s'est passé niveau politique cette semaine, parce que tout le monde, ou à peu près, avait quelque chose qui lui arrivait, en tout cas. On peut dire ça comme ça. La semaine dernière, on se laissait avec la crise au Parti libéral, où on avait des petits problèmes, disons ça comme ça, avec le personnel, Marois Risky qui se faisait montrer la porte pour on sait pas trop encore quelle raison, mais deux semaines plus tard, 12 jours. Et c'est rajouté dans cette semaine-ci une enquête de la police anticorruption qui est allée chercher des documents, semblerait-il, à la demande de Marois Risky pour tenter de faire la lumière, ou en tout cas, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que, et ça c'est la nouvelle partie de cette histoire-ci, c'est qu'il y aurait un député fédéral qui aurait discuté avec Marois lors de l'inauguration du REM, donc le train électrique à Montréal, et qu'elle aurait, que lui aurait pas vanté les mérites de sa fille, mais tu sais, aurait dit quelque chose comme ah, ben, vous savez, ma fille vous aime beaucoup et elle aimerait ça peut-être éventuellement devenir candidate du Parti libéral, ou en tout cas quelque chose du genre. Tout en rappelant également que celui-ci avait comme contribué à l'élection de Pablo, le candidat de Marois Risky, il faut le rappeler, à la course à la chefferie, parce que Marois était derrière Pablo, malgré tout, à l'époque, ça allait encore. Donc là, quand on a parlé aussi un mané de fling-flang, il y avait du fling-flang du fédéral qui s'en venait au Québec. Les dernières suppositions laissaient entendre que c'était peut-être quelque chose comme pas nécessairement de la corruption, mais que on se posait de fortes questions. Tu sais, ce ministre fédéral-là qui aurait récolté de l'argent pour Pablo, est-ce qu'il était aussi concerné par donner des 100$, donner des brownies aux gens? Mais encore là, pour juste choisir un chef à coût de 100$, c'est quand même beaucoup d'argent. Tu sais, 10 personnes, c'est déjà 1000$. Qu'est-ce que ça vaut 1000$ de juste avantager un candidat plus qu'un autre? question se pose. Après ça, ça dépend c'était quoi le plan sous-jacent, si c'était vraiment ça, en mettant plus Pablo que Charles Milliard. Il y avait une intention cachée quelque part en arrière de tout ça, de peut-être vouloir faire, on sait pas trop quoi. Parce que techniquement, les deux partis libéraux, fédéral, provincial, du moins au Québec, sont un peu indépendants l'un de l'autre. Ils sont pas nécessairement, ben ils sont en... Ils se rejoignent sur certaines idées, mais ils sont pas non plus une filière de l'autre. Justin Trudeau, ben non, même avant ça, Justin Trudeau militait pas aux côtés de Philippe Couillard non plus. C'est comparativement à Justin Trudeau avec l'ancienne première ministre de l'Ontario, tu sais, on l'avait vu. Mais au Québec, on n'avait pas nécessairement vu l'équivalent. T'sais, Jean Chrétien, Paul Martin n'ont pas été aux côtés de Jean Charest dans ces élections. Après, on peut comprendre, c'est un ancien conservateur. Fait que ça aurait été drôle. Mais les partis libéraux sont supposés être pas ensemble, en tout cas. Sur papier. Mais voilà, la question est lancée. Donc, que voulait ce monsieur Faisal, député de Laval au fédéral? Est-ce qu'il avait des intentions cachées à s'intéresser à faire élire son chum Pablo à la tête du Parti libéral du Québec? On ne sait pas. Parce que Pablo continue de répéter ad nauseam qu'il n'est pas au courant, qu'il attend des réponses, qu'il veut jaser avec Marois, mais que ça ne se passe pas. Fait que voilà pour ça de ce côté-là. Ensuite, s'il y a une crise au Parti libéral, dans les partis d'opposition, pour l'instant, le PQ, ça va. Ben, en tout cas, il n'y a pas eu d'énormes gaffes sur la place publique cette semaine pour le PQ. Donc, petite étoile dans le cahier de Paul. Où ça brassait encore plus, ben, c'est Québec solidaire, où Vincent Marissal claquait la porte la fin de semaine dernière, où il ne pouvait plus endurer le buffet de couleuvres que lui servait le parti, étant muselé, ayant les poings liés avec ce parti de loser qu'il haïssait et que, dont l'organisation était tout croche, etc., etc. Fait que, disons que pour la classe de partir en disant « ce n'est pas de leur faute, c'est de ma faute », ben cette fois-ci, non. Vincent Marissal est allé all-in. Tout est de la faute de Québec solidaire, je les haïs. Je veux plus rien savoir d'eux autres. Ils veulent pas gagner. Moi, je veux gagner, pas eux autres. Donc, j'ai des discussions avec Paul depuis plusieurs semaines. J'aimerais ça représenter Rosemont à la prochaine élection, mais pour le Parti québécois. Donc, peut-être la seule patate chaude avec laquelle Paul aura à composer, ça sera dans un an, s'il décide réellement de laisser un passe-droit à Vincent Marissal pour qu'il regagne Rosemont pour le Parti québécois alors qu'il avait lui-même pris Rosemont des mains du Parti québécois en étant avec Québec solidaire. Parce que, chose qu'il faut se rappeler, Vincent Marissal, la première élection qu'il avait gagnée, c'était contre Jean-François Lisée, à ce moment-là, chef temporaire du Parti québécois. C'est dans la succession de chefs qu'ils ont eu entre PKP et tout ça. Fait que Jean-François Lisée, on se souviendra, a été temporairement le chef du Parti québécois. Ça n'a pas duré, puis il avait connu un score assez terrible lui-même. Et donc, Vincent Marissal, qui, c'est ça, une feuille de route assez complexe, surtout dans les années récentes, voulait se présenter avec Justin Trudeau, libéral fédéral, a finalement choisi Québec solidaire provincial Québec pour finalement vomir sur Québec solidaire et vouloir redevenir péquiste, parce que Paul Saint-Pierre est une bonne personne et je l'aime, pour avoir peut-être été approché pour aller à la mairie de Montréal dans deux parties. Ça, c'est ce qu'on disait. En tout cas, les rumeurs disaient ça. Mais il avait quand même préféré rester avec les êtres malfaisants que sont Québec solidaire. Fait que c'est ça. C'est un peu difficile. Donc, c'est pour ça que la patate chaude qui revient dans les mains de Paul, c'est de vouloir avoir le candidat qui n'a pas beaucoup de reconnaissance, mettons, ou en tout cas qui n'hésiterait probablement pas la journée où ça irait peut-être pas bien avec son chef, qui décide de faire cavalier seul, de redevenir indépendant en disant que Paul avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues, que le PQ n'est pas le parti que j'aurais dû choisir, du moins pour gagner, pour Vincent Marissal. Fait que c'est un peu ça la question qui s'est posée cette semaine après ça. Est-ce que Vincent Marissal veut réellement continuer de faire de la vie politique ou juste essayer d'aller dans le pouvoir? Parce que même s'il s'intéresse beaucoup à la santé, les chances que Paul Saint-Pierre le nomme ministre de la Santé lors de la victoire du PQ l'année prochaine n'est pas garanti non plus, à moins qu'il devienne adjoint à quelque chose d'adjacent, là, je ne sais pas, ou personne âgée peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait donner à Vincent Marissal pour qu'il soit un peu content et qu'il ne décide pas de bouder et de s'en aller encore une fois indépendant en disant que tout est de la faute du chef et du parti. Donc, disons que ça n'a pas... C'était pas un départ élégant, pour être poli, là, disons ça comme ça. Puis ça y a été reproché, mais après ça... Et également, on avait ressorti des vieilles chroniques de l'éditorialiste Vincent Marissal qui disait que les transfuges puis les gens qui abandonnent en cours de route sont des opportunistes et qui devraient perdre systématiquement leur prochaine élection, habituellement. Et bien... Selon les propres propos de Vincent Marissal d'il y a 10 ans, il risque d'y avoir la même chose de toute façon. Fait que c'est probablement déjà terminé pour Vincent Marissal, à moins que Pierre-Luc Briand ne veuille pas revenir à la politique là, maintenant qu'il est vice-président de l'Union des artistes. Il est bon pour se pogner sur Twitter lui aussi. Là. Si Paul ne laisse pas sa place... Puis Pierre-Luc Briand sur Twitter, il est bon aussi pour se pogner avec les gens qui sont pas d'accord avec les idées du PQ, puis les affaires de même. Fait que là, tu sais, là, petite guéguerre Internet, mais bon, ça fait partie de la Game Master, puis Twitter, de toute façon, pour ce qui reste là-dessus, ça devrait plus exister bientôt, en tout cas. On verra bien, prochaine gaffe d'Elon, on verra ce qui arrivera avec Twitter, et sinon, ben... Autre démission encore cette semaine pour ajouter à d'autres démissions. Ben c'est Stephen Guilbeault qui n'en pouvait plus du nouveau gouvernement libéral de Mark Carney. Stephen Guilbeault, ancien ministre de l'Environnement, a vu son travail se faire dynamiter quand même assez rapidement depuis la prise au pouvoir de Mark Carney. Les objectifs... d'environnement sont enlevés. Il n'y a plus de restrictions à vendre des voitures électriques autant provinciales que fédérales. Il me semble fédéral, ils ont fait quelque chose de similaire. Et la couleuvre de trop, c'est peut-être le terme de la semaine, la couleuvre à avaler. La couleuvre qui n'a pas passé cette semaine pour Stephen Guilbeault, c'est le feu vert au projet d'oléoduc de Daniel Smith de l'Alberta, qui voulait un pipeline qui traverse bord en bord de la Colombie-Britannique sans demander l'avis de la Colombie-Britannique par ailleurs. Eh bien, Mark Carney a dit « Oui, Daniel, tu as raison, c'est une bonne idée. On va faire en sorte que ce projet-là se puisse, même si techniquement, il n'y a personne qui veut le faire. » Donc, pour, de l'avis de plusieurs, garder Daniel Smith à l'intérieur de la Confédération canadienne, on a décidé d'approuver son projet de fou. On se rappellera dans les dernières semaines que, un peu sorti de nulle part, Daniel Smith voulait absolument qu'un pipeline passe bord en bord de la Colombie-Britannique pour que l'Alberta soit capable d'exporter son pétrole vers les mers du Pacifique, vers la mer du Pacifique, l'océan Pacifique. Et c'est ça, pour ce faire, ben elle voulait juste connecter ses industries à l'océan Pacifique. Surprise, la Colombie-Britannique a dit ben, « ça serait le fun que vous en parliez en premier avant de passer un pipeline bord en bord de nous autres. » Qui, de toute façon, ce pipeline-là n'est même pas endossé par quelconque entreprise qui voudrait saccager le trajet d'une province au complet en plus de faire les raccordements du côté de l'Alberta. Fait que c'est un projet qui existe, oui, mais non. Mais là, la variante, c'est que maintenant, le gouvernement de Mark Carney, lui, se dit maintenant favorable, même s'il n'y a toujours pas de personnes qui vont pouvoir le faire, mais maintenant que le gouvernement est en accord avec ce projet-là, peut-être est-ce que l'odieux de commencer ce projet-là tentera une compagnie un peu sans scrupule qui se fout de l'environnement. Sait-on jamais. Mais reste quand même que cette entente-là a fait en sorte que Stephen Guilbeault n'en pouvait plus. Il a donc démissionné de son poste de lieutenant québécois, de ministre de la culture et des parcs et de l'identité canadienne, de la culture canadienne, qui regroupait également le ministère des... j'allais dire le ministère des femmes, mais pas... la condition féminine, plutôt, qui était regroupée sous l'identité canadienne. Donc, il n'est plus le ministre non plus de la culture féminine, mais devrait demeurer député de Laurier-Sainte-Marie à Montréal. Le fédéral s'engage donc à ne pas plafonner les émissions du secteur pétrolier en Alberta, ce que voulait faire, justement, l'ennemi numéro un de Daniel Smith, Stephen Guilbeault et Justin Trudeau, ainsi qu'à appuyer le projet en tant que projet d'intérêt national, de ce qui lui permettrait de contourner des lois environnementales fédérales. Donc, on peut maintenant saccager une forêt qui était peut-être protégée par Environnement Canada ou par Parc Canada. Ben, maintenant, le pipeline a priorité sur ces conservations-là d'environnement, rien de moins. L'accord spécifique que le projet serait entièrement financé et construit par le secteur privé. D'où pourquoi vient l'intérêt de trouver quelqu'un sans scrupule qui veut saccager l'environnement, et ce, à grands frais. S'il n'y a pas d'acteur du privé, il n'y aura pas de pipeline, dit Mark Carney. L'entente prévoit aussi une part de copropriété autochtone. Semblerait-il que dans les communautés autochtones, les plus jeunes seraient un petit peu plus favorables. Mais les aînés, eux, ne le sont pas du tout. Donc, eux non plus ne s'entendent pas. Ou inversement, mais non, ça, non, c'est les aînés qui veulent rien savoir, sauf erreur. Des consultations avec des groupes autochtones et des négociations avec la Colombie-Britannique devront avoir lieu. L'Alberta pourrait ensuite transmettre son projet au fédéral pour une révision accélérée d'ici le 1er juillet 2026. On met aujourd'hui en place les conditions nécessaires pour que ça arrive, mais il reste beaucoup de travail à faire, dit Mark Carney. Ce n'est pas gagné d'avance du côté de la Colombie-Britannique, le premier ministre David Eby s'opposant à un oléoduc qui traverse la province. Greenpeace Canada déplore de son côté un jour sombre pour le climat. Et Stephen Guilbeault a dû démissionner parce que c'est ça. Techniquement, lui était venu pour l'environnement parce que Daniel Smith l'haïssait et pour le bien-être de la Confédération canadienne, Mark Carney ne l'avait pas remis en place à l'environnement. Il lui avait redonné la culture parce que ça, c'est ce qu'on donne au ministre, qu'on ne sait pas trop quoi lui donner, la culture. Et c'est ça. À la place, il a juste abandonné parce qu'il ne pouvait plus endosser ça. Et de toute façon, ce ne sera pas le seul. L'aile un peu plus de gauche du Parti libéral, qui est un petit peu moins encline à ces idées-là, n'avait pas particulièrement de bonne humeur cette semaine. Et sans nécessairement qu'il y ait d'autres départs, disons que la courte majorité, il n'y a pas de majorité partout, en fait, la courte minorité qui demande seulement deux autres personnes pourrait faire en sorte que, c'est ça, si des élections sont déclenchées au printemps prochain, déjà à la prochaine mise à jour budgétaire, disons que les troupes libérales vont pas particulièrement bien, surtout avec Mark Carney pour l'instant. Est-ce que ce serait suffisant pour que là, Pierre Poilievre réussisse à remonter la pente? Pas nécessairement, il est encore pas spécialement aimé, mais reste que ça serait encore serré, mais il y aurait quand même du changement dans les cartes, mais de faire encore une élection un an seulement après la dernière, c'est sûr, c'est pas particulièrement encourageant non plus. Donc, on va essayer de l'étirer le plus possible, mais si on continue à prendre les décisions qu'à même le caucus et à même la propre gang, ça va pas super bien, ça va être difficile. Courte pause, au retour, on débute ce palmarès cinématographique de la semaine sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Jérémy Lachance, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Première bande annonce tout de suite, le dernier film de Léopold qui, je pense, n'est plus à l'affiche en Estrie, mais qui est peut-être au clap. Vérifie le tout, bande annonce.
Monsieur Mohammadi a fui l'Iran. Il a, comme des milliers d'autres réfugiés, transité par la Turquie jusqu'à débarquer clandestinement dans le port de Montréal.
Vous allez faire une demande d'asile, OK?
Pas d'empreinte, pas d'identité.
Vous savez, ça repousse des empreintes.
Si vous vous comportez comme faux, tout va bien aller.
L'association va payer les premiers mois.
Monsieur Reza Mohammadi demande l'asile au Canada dans le cas de menaces qui planent sur lui en raison de son orientation sexuelle.
Ça fait-il longtemps que vous êtes ici?
Plusieurs mois, oui.
Bienvenue au Québec.
Aux yeux de la loi, vous n'existez pas. Ici, leur boulot, c'est pas d'accepter les immigrants. C'est plutôt le contraire.
Vous allez nous suivre, on a un mandat de déportation.
Il a fait quoi? Reza!
Quand ils ont voulu l'arrêter, il s'est enfui.
Héberger quelqu'un, c'est un crime.
Madame Price!
Ouais, toujours l'attaché de la ministre.
I think I found someone that could help you.
J'aime bien ce que vous portez.
C'est classe.
Non.
Pourquoi t'es gentil comme ça?
Saad, je te présente Jeanne.
Attends, t'as fait géographie, mais tu sais pas où se trouvent les Seychelles.
Pourquoi est-ce que t'as souvent l'esprit ailleurs? Le mal du pays. Là-bas, t'as deux choix. Tu t'effaces et tu fais tout pour que rien paraisse. Ou tu finis en prison.
C'est Reza Mohammadi. Il y a 6 semaines, il a échappé à sa déportation. Lui, c'est son petit ami. Je sais pas ce qu'il veut, mais...
Pourquoi tu m'as rien demandé?
J'ai fait quelque chose de mal.
Ma femme de ménage en sait plus sur toi que moi j'en sais.
Je comprends pas qu'est-ce qui se passe.
Reza va être déporté au plus tard ce soir.
Je te demande de me faire rencontrer ta ministre une dernière fois.
Ton nom de famille, c'est quoi encore?
Parce que si on fait rien, Reza, après qu'on l'aura bien fouetté... On va l'accrocher à une grue, on va le laisser mourir au milieu de la place.
Je vais perdre ma job.
Je te parle de quelqu'un qui va se faire pendre!
Mon chef a pipi. Je pense à toi chaque jour. Et je t'aimerai toujours.
De la mer au Maroc. Ouais, ben finalement, la bande-annonce, ça donne pas mal tout le film. On sera heureux sur le parcours de Saad, jeune Marocain exilé au Québec, prêt à tout pour sauver l'homme qu'il aime, Reza. Lui, iranien, est menacé d'être renvoyé dans son pays où une mort certaine l'attend. Donc, ils doivent affronter Immigration Canada, puis ça se passe pas très bien. Pour tenter l'impossible, Saad entreprend de séduire le porte-parole, le secrétaire de la ministère de la ministre de l'Immigration du Canada. Ce pari dangereux déclenche une série d'événements aussi intimes que politiques où chaque décision engage bien plus que des sentiments. Donc voilà, dernier film de Léopold, le scénario de Michel-Marc Bouchard. Auteur prolifique au théâtre. Disons que ce film-là aurait fait une bonne série télé. T'sais, mettons, on l'aurait étiré sur 6 épisodes ici Radio-Canada, ça aurait fonctionné. Pour un film, on a peut-être un peu tourné les coins ronds, au sens où on installe bien l'environnement, mais tout se conclut dans le dernier 15 minutes, beaucoup trop rapidement. Et il n'y a pas vraiment de fin. Et ça, les films qui n'ont pas vraiment de fin, c'est jamais bon signe. Ou en tout cas, la fin n'est pas particulièrement satisfaisante. Et ça, je pensais que c'était juste moi qui avait accroché là-dessus. Mais non, j'ai lu comme 2-3 critiques qui, eux aussi, reprochaient la fin un peu bâclée. Parce que c'est ça, on installe les personnages, on installe l'environnement, on comprend que Saad pense avoir l'idée du siècle, mais que finalement, il s'embarque dans un tissu de mensonges qui, évidemment, ne va pas bien, puis ne finissent par pas bien aller, puis Céline Bonny n'arrête pas de picosser. Là. C'est comme, là, t'es sûr là, de ça? Là, c'est drôle, tu sais pas ça, puis t'es supposé savoir ça, puis c'est quoi ton nom de famille? Puis tu sais qu'elle est très insistante auprès de lui, qui est comme le... l'ami de Laurent, l'attaché de la ministre de l'Immigration. Fait que c'est pas mauvais. Ben là, malheureusement, il n'est plus à Sherbrooke, donc ça va être difficile pour vous d'aller le voir. Mais si vous passez par le cinéma Quartier, le Clap ou même le Lido à Lévis, vous allez être correct. Mais c'est ça, il est dans la capitale nationale, mais il n'est plus à Sherbrooke. C'était sa dernière semaine. Fait que... je voulais aimer ça. Tu sais, l'intrigue est là quand même, mais tu viens quand même à te poser la question pourquoi il continue de faire ça? Parce que les événements se déroulent sur peut-être comme un mois, peut-être, deux semaines, trois semaines. Puis plus ça avance, plus des fois, tu te poses la question de pourquoi il continue. Puis c'est peut-être ce bout-là qu'en série télé, on aurait peut-être été capable de mieux développer. Puis il y en a certains qui, bon, le côté un peu antipathique de Reza, celui qui pourrait se faire déporter. C'est vrai que tu te dis, ouais, il me semble qu'il n'est pas reconnaissant plus que ça, mais encore là, c'est difficile de s'imaginer d'être sur le bord de se faire déporter parce qu'il est arrivé ça. Puis sinon, ben, la scène d'interrogatoire au ministère de l'immigration est particulièrement frustrante. Là, mettons que Yves Soutière n'a pas hérité du rôle le plus sympathique dans tout ce film-là. T'sais, tu dis que Paul Amarani va être pas si pire, il est un peu exécrable aussi, mais mettons qu'Yves Soutière n'a pas hérité du rôle le plus sympathique dans ce film-là. Mais bon... C'est intéressant. Ça, c'est un bon film qui va passer à 22h45, 23h45. Après, tout le monde en parle dans deux ans à notre cinéma d'ici, parce que Radio-Canada met en valeur notre cinéma d'ici, mais tard le soir, le dimanche soir. Ça, on pourra y repasser. Ou sinon, à Art TV, un moment donné, il va repasser à une heure qui se peut. Mais... C'est ça. Un peu vraiment déçu par la fin. Parce que c'est ça. Le réseau qui n'est pas reconnaissant, ça revient vraiment beaucoup à rendu vers la fin. On le sent vraiment beaucoup plus, ce bout-là. Puis je sais pas. Il y a quelque chose avec cette fin-là qui est fin ouverte. Fin qui laisse pas présager. Ben, en tout cas, il n'y aura pas de deux, ça, c'est sûr. Mais dans le sens où. Me semble, c'est pas la fin qu'il aurait dû avoir. Elle se justifie, mais me semble, c'est pas la fin qui aurait été satisfaisante. C'est pas une fin satisfaisante, je veux dire ça de même. Donc, un moment donné, à la télé, sinon Jeune Québec, il reste encore une semaine ou deux. Si vous l'attrapez ça, on sera heureux. Dernier film de Léopold, mi-fig, mi-raisin, pour ma part, disons ça comme ça. Courte pause, au retour, on continue dans d'autres univers complètement cinématographiques sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Léopold, Zoo Baby, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, virgule, Léopold qui sera hommagé au Gala Québec Cinéma la semaine prochaine sur les ondes de nouveau, animé à nouveau par Phil Roy, parce que pourquoi pas, hein? Peut-être, est-ce qu'on sera heureux, sera en nomination l'année prochaine? Du moins, son acteur principal, Mehdi Mescar, devrait lui l'être, parce que vraiment, c'était le meilleur de la gang dans ce film-là. Ça, on ne peut pas y enlever. Il a quand même bien fait ça. Sinon, ceux qui s'arracheront peut-être la statuette du meilleur film l'année prochaine, ben de cette année, en fait, sont en nomination Amour Apocalypse. Berger, Comme le feu, Deux femmes en or, La petite et le vieux, Mademoiselle Bottine et Une langue universelle. Pour la réalisation, ben, Chloé Robichaud, Deux femmes en or, Anne Aymon, Amour apocalypse, Mathieu Rankin, Une langue universelle, Sophie Deraspe, Berger et Philippe Le Sage, Comme le feu. Donc, ce sera à suivre qui remportera les iris des meilleurs films. On reviendra avec les nominations la semaine prochaine parce que là, je ne veux pas qu'on manque de temps. Pour les bandes-annonces suivantes, univers que j'attendais énormément, quelques 10 ans avec le dernier, à peu près. Zootopia 2 qui prend officiellement l'affiche aujourd'hui.
Dans la police de Zootopia, le travail d'équipe est la clé du succès. Vous voulez traquer les criminels?
Aïe! Tire les oreilles, ne tire pas les oreilles de lapin!
Soyez sur la même longueur d'onde à tout instant.
C'est la police!
Chou-chou.
Sauvez-vous!
Bon, on peut pas toujours gagner.
Come on, get on up.
J'ai un truc à te demander. Tu crois qu'on fait une bonne équipe?
Oui, bien sûr.
Seulement, j'aimerais bien savoir ce qu'on devrait faire pour le prouver aux autres.
On vérifie le périmètre, on fouine un peu, si on trouve rien, on s'en va.
Aucun serpent n'a mis les pieds à Zootopia depuis une éternité.
Non,
serpent!
On va
devoir
arrêter!
Les serpents!
enfants ne sont pas les méchants de l'histoire. Je dois rétablir la justice. Quand ce sera fait, ma famille et moi, on pourra rentrer vivre chez nous, comme avant.
Oh non!
Popsy Wild, l'équipe de rêve.
Tout le monde à terre! Aide-moi à le sauver!
J'aimerais convoquer une réunion d'équipe!
Je veux ce renard et ce lapin! Est-ce que vous savez combien de mères ils ont déjà détruit?
Un, deux...
Je crois que j'en compte deux.
Alors, t'as une idée de ce qu'il faut faire?
Ouais! Si vous voulez parler à un reptile, je suis celle qu'il vous faut. Nous y voilà! Zootopia a une population secrète de reptiles. Laissez-moi parler aujourd'hui, quoi. Salut, mon pote.
Eh, mon pote.
Eh, mon pote.
Eh, mon pote. Eh,
mon pote. Eh, mon pote. Mon petit pote.
Eh, mon pote. Eh, mon pote.
Salut, pote.
T'as vu un serpent?
Non.
Attends!
Attention à la bombe!
Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
Les suspects sont en vue! Je m'en occupe!
On doit résoudre cette affaire.
Pas si on y laisse notre peau.
Julie!
Bonne chance! Je vous aime!
Quand vous sauverez la ville, peut-être que tout le monde comprendra que les reptiles ne sont pas si différents.
Voilà, c'est sûr que sans le visuel, le dernier gag de reptile est un petit peu moins bon, mais au cinéma, il est très bon ce gag-là. Julie et Nick se retrouvent sur la piste sinueuse d'un grand mystère lorsque Gary the Snake arrive à Zootopia et met la métropole animale sans dessus-dessous. Ça, c'est un autre film. Pour résoudre l'affaire, ils doivent s'infiltrer dans des nouveaux quartiers prévisibles de la ville où leur coopération grandissante est mise à rude épreuve. J'avais hâte au retour de Zootopia, pour vrai. L'univers avait extrêmement bien fonctionné la première fois. Là, dans celui-ci, on répond justement à cette question de où étaient les reptiles dans le premier film. Et ben voilà l'intrigue du deuxième. Que sont devenus les reptiles? Pourquoi Gary the Snake est le premier reptile depuis très longtemps à avoir mis ses écailles à Zootopia, j'allais dire mis les pieds, mais pas tout à fait. Il y a des jokes d'écailles aussi. Non, pour vrai, ça fonctionne énormément. C'est un film d'animation. Le seul bout que j'ai pas compris de ce film-là, c'est que techniquement, l'intrigue se passe une semaine après les événements du premier film, mais on a plus l'impression qu'il s'est passé un 6 mois, un an. Puis ça aurait pu être un 6 mois, un an. Là. C'est pas tout à fait comme Les Incroyables, que Les Incroyables 2 reprenait exactement là où terminait le premier film avec le dernier méchant qu'on voyait puis qu'on affronte. Fait que, est-ce que c'était justifié de reprendre l'action quelque temps après la dernière mission? Oui et non. T'sais, on aurait pu laisser passer du temps virtuellement puis ça serait revenu au même parce que ça suppose que les mini-épisodes de Zootopia Plus se passent pendant la fin du premier film et la semaine avec les événements du deuxième film. Fait que c'est pour ça que ça devient un peu bizarre, la chronologie de tout ça. Mais en tout cas, parce qu'effectivement, les mini-épisodes de Zootopia Plus sur la plateforme Disney Plus, il y a des petits rappels, sont canons, mais sont pas non plus obligatoires d'avoir été vus avant d'aller voir le deuxième film. Donc, pas besoin de se garrocher sur un abonnement Disney Plus pour les 6 mini-épisodes. C'est complémentaire plus que d'autres choses, même si c'est des petits clins d'œil. Et c'est probablement la force de ce genre de film Disney-là, c'est qu'il y a toujours beaucoup de clins d'œil à d'autres événements de la culture populaire et de l'univers Disney lui-même. Le seul petit défaut que je vais trouver à Zootopia 2, c'est que comme il y avait beaucoup de personnages dans le premier, on a essayé de tout leur redonner une apparition dans le deuxième film. Et dans certains, c'est un petit peu crowbar de juste forcer l'apparition de ce personnage-là pour mettre le personnage dans le film, plus qu'il sert à l'intrigue. Mais reste qu'avec les nouveaux personnages, on va quand même plus... On va quand même plus développer cette histoire-là, sans non plus, c'est ça, complètement délaisser les personnages du premier, même s'il y en a plusieurs que, bon, c'est ça, ils n'ont pas, nécessairement de gros liens à faire avec le deuxième film. Mais sinon, pour vrai, l'humour est là, les références sont là, il y a beaucoup de gags visuels, à rester attentif, à voir que, c'est ça, c'est autant... Ça va satisfaire les plus jeunes parce que l'histoire est le fun, les personnages sont drôles, il arrive plein d'affaires. Autant qu'il y a des gags pour les adultes, ne serait-ce que dans les gags visuels, là, j'en brûle un parce que c'est tellement précis puis ça passe tellement rapidement. Il y a un ours polaire qui boit du coke. Il y a une séquence où il y a un ours polaire qui se débouche un coke et j'ai trouvé ça génial. C'est tellement niché, mais c'est tellement drôle que si tu le vois, tu le ris, si tu le manges, c'est pas grave. Fait que c'est tellement... C'est tout des petits gags cachés comme ça. Il y a des références au premier film, c'est sûr. Il y a des clins d'œil qui sont faits au premier film. Il y a une scène à la fin du générique qui laisse supposer qu'un troisième film pourrait être en préparation et qui va arriver un petit peu plus rapidement que le deuxième, probablement, parce que le succès devrait être rencontré pour le deuxième, qui sort, surprise, juste à temps pour Noël, juste à temps pour le congé des fêtes. Fait que Zootopia 2 risque d'être l'un des bons vendeurs cette année de Disney. Ça, c'est assez inévitable. Et ce qui est particulier également, c'est qu'on voyait les bandes-annonces de tous les films de Disney de l'année prochaine avant de commencer celui de Zootopia, avec Histoire de jouets 5, avec Moana 1 en vrai. Il n'y avait pas de Marvel, c'est vrai. Il n'y avait pas de bande-annonce de Marvel. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, Marvel, voyons? Ben Avengers, mais pas d'image réelle encore. Mais sinon, voilà. Donc, ça fonctionne. C'est drôle. T'sais, on réinvente pas les histoires de police, évidemment. Il y a un retournement de situation un peu comme dans le premier que, oh mon Dieu, les plus perspicaces vont le voir venir, mais sinon, on embarque dans l'histoire à fond. Les personnages sont drôles. Ça fonctionne complètement et, fun fact, au générique, on a à peu près toutes les voix, à part Marc Labrèche, parce que c'est ça. Divulgacheur, Flash n'a pas un rôle important dans celui-ci, fait que Marc Labrèche n'a pas repris le rôle du paresseux. Mais sinon, tout le monde est là, même Martin Matt et Julie Le Breton, parce qu'on avait vendu Zootopia 1 parce que les beaux malaises venaient de sortir, fait qu'ils jouaient le père et la mère de Julie Hobbs dans le 1. Ils sont de retour, là, eux autres aussi, fait qu'on a vraiment... Le casting original du premier film, même si on est 10 ans plus tard, fait que non, c'est un bon divertissement, c'est un bon Disney, les règles sont respectées. Évidemment que ça va faire énormément d'argent parce que le premier univers avait fonctionné également. Même on l'entend dans la bande-annonce, même Shakira est de retour, Gazelle est de retour, fait que non, toutes les pièces sont en place pour que ça fonctionne, puis. Comme, justement, on n'avait exploité aucun gag de reptile dans le premier film, comme il n'y en avait pas, bien évidemment, il y en a énormément dans celui-ci. On peut se reprendre de certaines parties de la ville qu'on n'avait pas énormément développées la dernière fois, ne serait-ce que la ville tropicale où on n'avait pas mis les pieds, ou à peu près pas dans le premier film, où on passait peut-être très rapidement dans le métro qui reliait la ville de Judy à Zootopia. Mais donc là, on s'y attarde un peu plus, notamment les hippopotames qui ont des rôles un peu plus importants, et les lamantins et les lions des mers, à ne pas confondre non plus. Fait une courte pause au retour, un autre univers qui, ben c'est ça, fait bien de finir parce que là, c'est long là. Wicked 2, après la pause, sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Ce n'est pas ici, ce n'est pas ailleurs, devenez, qu'on vient d'entendre en musique, sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Dernière bande-annonce, comme je le disais, enfin pour de bon, parce qu'on ne veut pas un 3, là, un moment donné. Mais en tout cas, ceux qui vont au cinéma deux fois par année pour voir Wicked veulent un 3, mais ça devrait être plus difficile. Bande-annonce, Wicked, deuxième partie.
Elphabatrop, je sais que tu es là. S'il te plaît, entre avant que les singes te voient.
Je ne peux plus reculer. c'est entre nous, le magicien et moi. La méchante sorcière ne peut pas continuer à nous échapper. Pas avec le prince Fierro et son escadron à ses trousses. Le merveilleux magicien d'Oz. Personne ne croyait en vous plus que moi.
Elphaba. Il vient de s'en prendre à toi.
J'espère que tu auras ce que ton cœur désire, Galinda.
Imagine ce qu'on pourrait faire. Ensemble.
Apportez-moi le balai de la méchante sorcière de l'Ouest.
Il est temps pour nous deux de voler.
Because I knew you.
Tu es la seule amie que j'ai jamais eue.
Because I knew you. Et moi, j'ai eu tellement d'amis. Mais une seule qui comptait vraiment. Je vais voir le magicien.
Wicked pour de bon, partie 2. C'est 2h08, mon Dieu, ça a paru un peu plus long. Donc, essentiellement, Wicked a utilisé la technique de Harry Potter 7, de Hunger Games 3, de... Quel autre film qui a fait ça aussi? En tout cas, qui a de diviser son film en deux parties pour faire un petit peu plus d'argent au box-office. Donc, Wicked, dans un film de 5 heures, complètement injustifiable, parce que c'est une comédie musicale de 3 heures qui font un film de 5 heures. Trouvez l'erreur. C'est ça. On a étiré ça le plus qu'on pouvait, même si... J'ai un peu plus aimé la deuxième partie que la première. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus d'action dans ce deuxième film-là, mais qu'il fallait atrocement avoir en tête le film du Magicien d'Oz original parce qu'on passe par-dessus tous les événements du Magicien d'Oz original et on va comme dans les entre-scènes dans la deuxième moitié de ce film-là. Fait que si on n'a aucune idée qu'il y a un autre film autre que les deux Wicked, Le Magicien d'Oz, comme la petite fille qui était dans la salle de cinéma puis qui n'arrêtait pas de poser des questions à son père de c'est qui elle en pointant Dorothée. Disons que faut avoir fait ses devoirs et d'avoir vu au minimum, ou en tout cas de connaître Le Magicien d'Oz original parce qu'il manque beaucoup d'éléments pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout l'histoire originale. Wicked, à la base, c'est comme une espèce de... Ben, c'est pas vraiment un épisode avant, parce que c'est pendant. Fait que c'est pendant, c'est comme l'histoire qu'on n'a pas contée du Magicien d'Oz avec les personnages des sorcières dans le cas de Wicked. Puis, ben c'est ça. On répond à des questions qu'on aurait peut-être pu avoir sur le Magicien d'Oz. Puis eux autres aussi ont eu le problème d'avoir trop de personnages dans le premier film puis de ne pas s'en servir dans le deuxième. Notamment Michelle Yeoh qu'on voit 3 secondes et quart puis qui est déjà repartie après. Fait que je pense pas que Anne Dorval a eu des grosses journées de tournage pour enregistrer sa voix sur celle de Michelle Yeoh. C'est pas elle qui est la plus présente non plus. C'est ça. Il y a beaucoup de stock dans Wicked. Je lisais juste le résumé. Elphaba, diabolisée comme méchante sorcière de l'Ouest, et Glinda, devenue symbole officiel de la bonté à la cité Emerald, vit désormais dans deux mondes opposés. Tandis qu'Elphaba lutte dans l'ombre pour libérer les animaux d'Oz, parce que oui, il y avait ça aussi dans Wicked, et révéler la vérité sur le magicien, Glinda, elle, prête son sourire au régime en place, tout en étant hantée par la perte de leur amitié. Lorsqu'une fille venue du Kansas provoque une crise sans précédent et qu'une foule en colère se dresse contre Elphaba, les deux sorcières doivent s'allier une dernière fois de leur capacité à se comprendre et à se pardonner. Dépendra le destin de tout Oz. Fait que c'est ça. C'est, essentiellement, ça finit relativement bien parce qu'elles font la paix malgré tout, les deux personnages. Divulgacheur pour ce bout-là. Mais essentiellement, c'est ça. Il est un petit peu moins pire que le premier. Ça, je dirais ça, parce que le premier, il est long, longtemps. Mais les chansons sont meilleures dans le premier, dans le sens où les gens chantonnaient plus les premières chansons que dans le deuxième, qu'il n'y en a pas vraiment, que le monde se rappelle, ou en tout cas qu'on va fredonner peut-être un petit peu moins dans les mimes Internet, à tout le moins. Il y a peut-être la scène de l'épouvantail, là, parce que, bon, autre divulgateur, on a les origines du lion, de l'épouvantail et de l'homme, j'ai juste Tenman, son nom en anglais, mais de pas l'homme robot, mais l'homme de métal. On a leurs origines, eux autres aussi, dans Wicked. Fait que, d'où ils pourraient provenir. Parce que techniquement, c'est pas officiellement leur véritable histoire. Parce qu'il y a des trucs qui diffèrent. Puis qui se raccordent un peu moins bien avec le Magicien d'Oz original. À quel point c'est un problème de droit d'auteur? Parce que, autre fun fact sur ce film-là, si notamment on voit pas Dorothée. Je sais pas à quel point ils ont essayé d'avoir un visage recréé de Judy Garland puis que ça n'a pas marché, mais qu'ils ont juste choisi de ne jamais montrer Dorothée dans ce film-là. Choix étrange. Mais ces souliers rouges n'existent pas non plus dans l'univers de Wicked parce que les droits des souliers rouges appartiennent à MGM. Et comme c'est Universal qui fait le film, ben c'est ça. Ils n'ont pas le droit d'avoir des souliers rouges. Et... il y avait une parodie aussi dans Family Guy qu'il avait faite, puis qu'elle avait des souliers bleus, puis j'avais jamais remarqué. Mais c'est ça. Semble-t-il que c'est vraiment ça. MGM possède les droits des souliers rouges, donc personne n'a le droit d'en avoir d'autres. Et c'est ça. On voit jamais Dorothée de face non plus. Fait que c'est ça. C'est correct si on a aimé le premier film. Faut avoir vu malheureusement le premier film parce que c'est ça. On reprend les événements techniquement la semaine après. Parce que c'est 12 marées qui séparent les deux films, me semble, dans la scène d'ouverture, ça qu'on dit. Il y a 12 marées, mais c'est à peu près ça, une semaine, 12 marées. Fait que c'est ça. C'est tel que tel. Les chansons sont moins bonnes. Il y a plus d'action. La chanson de l'épouvantail est un peu émouvante. Mais sinon, c'est trop long. Deux parties, ça le valait pas. C'est, essentiellement, c'est un film de 5 heures divisé en deux. Puis, ben c'est ça. C'était pour faire plus de cash de le faire en deux parties. Comme les Hunger Games et comme Harry Potter l'avait fait à l'époque. Fait que voilà pour ça. En résumé, Zootopia all the way. Et les autres, ben, s'il y a rien d'autre à faire en fin de semaine. C'est là que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. À la prochaine. Salut.